On vous l'avait dit, c'est une matinée spéciale qui continue ce matin avec notre invité qui est avec nous en direct, c'est Amélie Roméas. Rebonjour Amélie.
Bonjour.
On est vraiment heureux de vous avoir avec nous ce matin pour parler de la situation en Ukraine, notamment le collectif AZA, dont on a déjà parlé plus tôt dans l'émission, qui est réellement là pour se positionner, pour œuvrer, pour rassembler l'œuvre de toutes ces associations ensemble et faire que tout ça marche d'une façon cohérente. On est vraiment heureux de vous avoir avec nous et j'ai déjà envie de dire à nos auditeurs, notez bien, sortez votre petit stylo, peut-être que vous avez des questions qui vont venir durant les échanges, vous avez envie même de faire des remarques tout simplement, n'hésitez pas, vous vous rappelez ce numéro 0652 300 342 pour réagir Tom.
Et pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, ça y est, vous êtes dans votre voiture, vous allez au travail et vous aimeriez savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que le collectif AZA. On va le représenter ensemble, Amélie, vous qui êtes coordinatrice du collectif. Alors, qu'est-ce que c'est AZA, les origines, un petit peu l'historique? Parlez-nous de tout ça.
Oui, alors AZA, c'est Association au service de l'action humanitaire. Mmh. Et c'est une association qui naît en 1996 et qui est déjà partie en fait d'une crise humanitaire en fait, qu'il fallait gérer. Et il a paru vraiment très pertinent de se rassembler, en fait, de rassembler les associations et ONG chrétiennes pour aider les populations, pour se transmettre les infos, les expériences, et en fait gagner énormément de temps et puis renforcer l'impact directement sur le terrain. Donc ça a tout de suite donné l'ADN en fait au collectif. Mmh. Et puis après, au fil du temps, le collectif s'est vraiment développé avec, du coup, il a sorti d'un livre déjà, avec des outils très concrets pour soutenir les associations sur 50 solutions de financement, ça s'appelait. Puis petit à petit, plusieurs autres initiatives sont nées avec le Salon des Solidarités en 2005, qui a été vraiment un événement incontournable en fait, de l'humanitaire, de la solidarité internationale au parc floral à Paris, porte de Versailles. Donc c'était vraiment quelque chose de fort, de reconnu. Et puis, 2017, ça a dû s'arrêter. Et donc, récemment, ce qui est né du collectif AZA, c'est une course solidaire qui s'appelle Hope 360, dans le but vraiment de parler de ce collectif au grand public, de sensibiliser les chrétiens et le grand public à ce qui se fait en solidarité internationale.
Bon, Amélie, moi, je mets un peu de temps à comprendre hein, le matin, je suis comme ça. À midi, ça va un peu mieux.
C'est ton style, ouais.
Si je comprends bien, du coup, AZA n'est pas forcément sur le terrain, mais c'est plutôt organisation, soutien et
gestion de projet.
Gestion de projet, ouais. C'est ça, hein, Amélie.
Exactement. Nous, on n'est pas directement sur le terrain. On est vraiment en soutien, en fait, et en coordination des relations inter-associations, inter-ONG.
Et bah, c'est génial. Ouais. Bah, quels sont ces partenaires, justement? Quels sont-ils?
Oui, alors il y a une trentaine d'ONG associations. Wow. Je vais peut-être pas toutes les lister là, c'est un peu long.
C'est clair.
Mais alors, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on rassemble des grosses ONG que vous connaissez comme Portes Ouvertes, Le Sel, MEDER, la MAF, pour dire vraiment les noms peut-être qu'ils font, que vous connaissez.
Qu'on connaît bien sur Far FM, oui.
Eh oui, j'imagine. Et aussi des plus petites comme Sourmougou, Écoutez l'enfant. Voilà, on a vraiment toute taille d'association et c'est tellement riche cette complémentarité. Voilà.
Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont lancées? On sait qu'il y a MEDER, hein, on en parle sur l'antenne depuis quelques jours sur Far FM. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui sont parties à l'aide au secours aujourd'hui dans cette situation en Ukraine notamment?
Oui, tout à fait. Alors, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, mais on a les associations qui agissent depuis la France et qui envoient des camions. On a Partage Plus, on a l'association de la Gerbe. On a aussi Écoutez l'enfant, on a ADRA, MEDER, bien sûr, le Secours protestant. Voilà, ça, c'est vraiment les associations principales qui se sont vraiment lancées. Voilà, ça bouge.
Et en effet, on va décliner ça hein, tout au long de cette heure, les partenaires qui agissent en France, aux frontières des pays limitrophes et aussi en Ukraine. Et moi, franchement, de savoir qu'il y a une trentaine d'organismes comme ça qui se serrent les coudes pour cette crise d'Ukraine, franchement, moi, ça me touche et ça m'encourage vraiment. Est-ce que vous pouvez, pour nous et pour les auditeurs, hein, nous donner un petit aperçu, un petit peu de comment on vit les choses sur le front, entre guillemets, dans les villes les plus touchées par le conflit, Amélie?
Oui, alors j'ai des nouvelles de ce matin, des villes qui sont vraiment extrêmement touchées, dont Mariupol, vous avez sûrement entendu parler dans les médias, mais les nouvelles sont vraiment quand même très difficiles avec une destruction La personne disait que la ville est quasiment plus existante. Donc voilà, il y a des villes comme ça qui sont extrêmement touchées, les populations là se réfugient parfois dans les églises ou quoi, mais ça devient voilà, il y a beaucoup de peur. Donc voilà, les villes sont, les personnes sont très très éprouvées. Ouais.
Est-ce que les gens décident de rester dans ces villes-là, de rester dans leur logement par symboliquement ou alors par crainte de ne plus retrouver leur logement quand ils reviendraient? Comment les gens un petit peu vivent les choses dans leur dans leur quotidien?
Oui, on a eu le témoignage d'un orphelinat qui est à quelques heures de Kiev. Mmh. En fait, ils restent pour le moment. Ils veulent vraiment rester et pas déraciner même les enfants qui sont là, de là où ils sont, tant que les bombardements ne se rapprochent pas trop. Mais il y a vraiment une volonté de rester, de tenir ferme, qui est très impressionnante, et en fait, d'entraide. Rien que le peuple ukrainien entre eux, il y a une telle entraide entre eux, c'est vraiment impressionnant, je trouve.
Et dans les villes les moins exposées, justement, ça se passe comment?
Dans les villes moins exposées, ben après, il y a la gestion en fait, du flux de réfugiés, des gens qui fuient les villes qui sont extrêmement touchées. Et on a par exemple cet orphelinat qui sert aussi de refuge pour la nuit, pour les mamans et les enfants, qui passent la nuit là avant ensuite de continuer leur périple jusqu'au pays limitrophe. Donc voilà, ça s'organise très très bien.
Moi ça me parle un petit peu dans mon quotidien, dans une certaine mesure, faire face à la difficulté, faire face aux difficultés de la vie, de voir ces exemples-là de personnes qui choisissent de rester dans cet orphelinat que vous venez de citer, Amélie, c'est incroyable, malgré les bruits de bombardement. Wow. Et ça nous enseigne à nous, je pense, ici, dans notre quotidien, de peut-être se dire, ah ben voilà, aujourd'hui je vais faire face à tel échec, peut-être telle difficulté, avec un collègue ça se passe mal, mais peut-être je vais faire le choix de rester et d'être toujours là, de continuer de persévérer. Je sais pas, peut-être ça vous parle de l'autre côté de la radio, peut-être que ça vous encourage. En tout cas, on a beaucoup à apprendre de ces populations-là.
C'est vrai, et on continue nos échanges pour parler de ce qui se passe, notamment du côté des églises et des chrétiens. On vous rappelle que vous pouvez réagir ce matin, envoyer tout votre amour, tout votre soutien au numéro de la radio pour Amélie, toutes les équipes, toutes les associations, on les a citées, hein. Elles sont nombreuses, Portes Ouvertes, MEDER, Le Sel et beaucoup d'autres qui œuvrent aujourd'hui, mais vous aussi vous pouvez faire la différence, vous pouvez accueillir des gens chez vous, vous allez sur farfm.com/Ukraine, vous avez toutes les informations et vous pouvez donc comme j'ai dit réagir au 0 652 300 342.
Et oui, Amélie Roumeas qui est avec nous toute cette matinée, coordinatrice du collectif AZA, qui œuvre à la coordination des organismes sur place, notamment pour l'Ukraine, hein, puisqu'on est dans cette crise humanitaire. On a parlé un petit peu plus tôt du front, hein, en Ukraine, de la réalité du terrain. Et on va parler, comme tu le disais, Matt, un petit peu de la situation des chrétiens, des églises, comment ça s'organise du côté de l'Ukraine, Amélie.
Oui, en fait, les églises sont des vrais point de repère pour les différentes ONG d'AZA qui agissent sur le terrain en Ukraine. C'est vraiment en fait des points fiables pour envoyer les gros camions remplis de denrées alimentaires, de vêtements, de tout ce qu'il faut pour subvenir aux besoins. Donc c'est vraiment, les églises ont un rôle clé, tous les partenaires chrétiens des différentes associations du collectif AZA ont un rôle très important à jouer. On parlait de cet orphelinat qui est aussi un point clé pour acheminer l'aide en fait de la Roumanie, de la Pologne et tout ça vers l'Ukraine.
Quels sont les organismes partenaires d'AZA qui aujourd'hui agissent sur le terrain? Peut-être vous pouvez nous citer quelques actions qu'elles mènent également actuellement.
Oui, on a par exemple ADRA qui organise la distribution de coupons. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a plus trop de liquidités disponibles en Ukraine. Et donc, ils donnent ces coupons pour que les familles ensuite puissent aller acheter de quoi manger. Donc ça, c'est une action qui se fait dans une dizaine de villes en Ukraine, par exemple. Ils se sont déployés très, très rapidement pour aider.
Allez, peut-être encore une autre rapidement, un autre organisme sur place?
Oui. Alors sur place, on a du coup ça, c'est plus via des partenaires. C'est justement le rôle des chrétiens, parce que les autres sont plus sur les pays limitrophes. Mais par exemple, on a justement la GERB qui a envoyé un camion avec des denrées alimentaires qui sont ensuite distribuées via leurs partenaires en Ukraine.
Excellent,
c'est génial.
Là, vous vous dites, Ah ouais, en fait, il y a des choses qui se passent. C'est pas que des mauvaises nouvelles. Et c'est pas que une crise qui va jamais se terminer, etc. Des gens s'activent, des gens se soulèvent pour aider, pour être solidaires. Et ça, franchement, moi, ça m'encourage trop.
Moi, j'aime l'idée que les gens se soulèvent pour aider, comme tu viens de le dire. Oui. Et je pense que c'est ce qu'on va voir durant toute cette heure. Non, mais c'est super bien dit. Moi, je trouve. On parle conflit en Ukraine avec Amélie Roméas, qui est avec nous en duplex, qui est la coordinatrice du collectif AZA, une association qui coordonne une trentaine de partenaires qui agissent sur le terrain. Et on disait il y a quelques instants, justement, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passent actuellement.
Et oui, on a parlé de la situation sur le terrain en Ukraine. Et là, on va aller un petit peu, on va se rapprocher de l'ouest de l'Europe, de la France, en allant vers les pays limitrophes.
Mais avant, vous vouliez repréciser encore quelque chose, Amélie, que vous vouliez nous partager.
Exact. Bien oui, je mate.
Oui. Tout à fait. Non, je voulais parler d'une action qui se fait en fait entre le terrain et le pays limitrophe, justement, dont on va parler après. Avec le Secours Protestant, en fait, qui fait des navettes, et puis il y en a plein d'autres qui font ça, hein, qui font des navettes, en fait, pour aller chercher les réfugiés, pour aller chercher les Ukrainiens qui souhaitent partir et les ramener à la frontière. Et même, ils ont déjà commencé à ramener des personnes jusqu'en France.
Wow, ok, wow. Bah, chapeau bas. Hein.
Donc, voilà, un vrai travail avec une prise de risque.
Mais c'est clair, mais waouh, je salue le courage de ces gens.
Chapeau bas, c'est chauffeur.
Et on va en parler en fin d'émission, justement, parce qu'on parle de logement, etc. Que nous, on pourra aussi, enfin, on verra que
c'est ça.
On peut aussi concrètement aider.
On va faire le trajet un petit peu avec les réfugiés vers la France, hein, et ça sera en fin d'heure. Et puis, du coup, voilà, ces trajets vers les pays limitrophes. On sait qu'il y en a plusieurs, il y a la Pologne, la Moldavie, la Roumanie, la Slovaquie, hein, entre autres. Alors comment est-ce qu'on vit? Vous pouvez choisir hein, le pays, Amélie. Comment est-ce qu'on vit les choses dans ces pays limitrophes, hein, dans un de ces pays limitrophes? Quelles sont un peu les conséquences du conflit?
Oui, eh bien, les conséquences, c'est un peu partout, pour chaque pays les mêmes. Mmh. C'est un afflux de personnes assez impressionnant, avec en tête la Pologne. Mais je vais peut-être plus parler là de la Roumanie, parce qu'il y a une vraie organisation qui se fait. Mmh. Et j'aimerais parler de notre partenaire Partage Plus, qui est en fait un partenaire vraiment proche de Siret, à la frontière, et qui, en fait, permet de stocker du matériel qui arrive depuis la France jusqu'à ce qu'il puisse être distribué. Soit sur les longues files d'attente réfugiés qui attendent des heures dans le froid et avec très très peu de nourriture, mais qui aussi est acheminé en Ukraine.
On parle de milliers, de millions de personnes. Hein. Si on cite l'exemple de la Pologne, c'est plus d'1,3 million de réfugiés. En tout, il me semble que c'était 2 millions.
2 millions de réfugiés qui sont répandus un peu partout.
C'est énorme. Donc, on parlait de ces convois avec cette association qui véhicule.
On vient de nous préciser que c'est même 2,5 millions actuellement. Là maintenant, info toute
fraîche. À 9h30, info toute fraîche. Et du coup, alors, est-ce que certaines personnes voyagent à pied? On parle de la fin de l'hiver, il fait froid. Comment ça se passe un petit peu? Tout le monde n'est pas véhiculé, hein, Amélie?
Non, tout le monde n'est pas véhiculé. Tout le monde fait comme il peut pour rejoindre la frontière et pour traverser. Et les témoignages les plus quand même difficiles que j'ai pu entendre, c'est les déchirements dans les familles parce que les hommes doivent rester en Ukraine. Et donc, c'est les femmes et les enfants après qui sont accueillis. Et donc, il y a un vrai travail d'accueil de la part des associations. Il y a un vrai travail d'accueil, de prise en charge, de soins, pas seulement la nourriture, les vêtements, mais même psychologiques. Parce que, c'est assez inimaginable. On a du mal à imaginer ça à notre époque. Mais c'est vraiment...
C'est clair. Imaginez-vous partir comme ça du jour au lendemain.
On prend un peu ce qu'on peut, on fourre ça dans un sac, dans une valise.
En plus de ça, il y a la séparation entre les hommes et leurs épouses avec les enfants, devoir partir on ne sait pas où, on ne sait pas en fait finalement ce qu'on quitte, on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on retrouve derrière. Imaginez-vous dans ces situations-là.
Tout perdre,
c'est terrible. Et on verra justement dans cette émission que il y a également de l'espoir. Il y a également de l'espoir pour non seulement pour ces familles, mais pour nous aussi, peut-être d'apporter une aide concrète. Restez bien avec nous. Ouais. On en parlait avec vous, Amélie, il y a quelques instants de cette situation, du côté des pays limitrophes, la condition des gens. Pouvez-vous, continuer nous dire un petit peu justement comment les gens, dans quelle situation ils se trouvent aujourd'hui?
Oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, les gens en fait, sont partis avec rien ou pas grand-chose et surtout pas de liquidité. Voilà. Donc les gens sont vraiment dans le dénuement et ont besoin de tout. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des collectes qui se font depuis la France et qui sont acheminées. Là, juste un exemple, tout ça, puis un camion qui part aujourd'hui, c'est aussi un sujet de prière, qui part de Paris aujourd'hui avec une collaboration entre Écouter l'Enfant et l'association La Gerbe, un camion rempli de denrées. Et donc, pour justement venir apporter tout le matériel pour les bébés, l'hygiène spécifique, l'hygiène générale, la literie, les vêtements chauds, les chaussures chaudes. Là, il n'y a pas toujours de la nourriture, parce que des fois, c'est encore moins cher d'acheter quand même dans les pays limitrophes directement, et puis moins risqué. Hein. Voilà. Donc, et un exemple tout bête, alors là, c'est un centre qui sert de transit pour les réfugiés avant qu'ils arrivent dans le pays limitrophe. En fait, ils ont fait des stocks de nourriture qu'ils mettent dans les congèles parce que ça a été pris d'assaut, les magasins et tout ça, en Ukraine. Et en fait, ils ont des soucis d'électricité. Donc, c'est un vrai défi. La directrice de ce centre est remplie de foi. mais elle a quand même demandé deux groupes électrogènes parce que ça devient risqué. Et s'il n'y a plus d'électricité, ils perdent leur stock de nourriture pour tout le monde, quoi. Donc, voilà, c'est un vrai défi.
Et là, ce qu'on peut voir, Amélie Rouméa, c'est que vraiment, les différentes spécificités des organismes et des associations viennent vraiment
secours des gens, en fait.
Ouais, c'est une collaboration. Et en fait, la force des uns s'associe à la force des autres. Vous avez parlé des enfants. Il y a d'autres associations qui ont d'autres spécificités. Est-ce que vous voyez vraiment ça, hein, que les besoins globaux, peut-être, sont rejoints par les différentes spécificités de ces organismes-là?
Oui, c'est vraiment ça. On a le Secours protestant qui va être sur la protection civile, donc qui saura déplacer des personnes en mettant la sécurité maximum nécessaire. On a MEDER qui est vraiment expert dans l'urgence et dans distribuer des kits de première urgence avec tout ce qu'il faut. Ils savent vraiment quoi donner quand les personnes n'ont plus rien. Voilà, on a ADRA avec la distribution de coupons. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est aussi l'échange d'informations entre ces différentes associations. Par exemple, ce point, ce matin, il est fermé, on ne peut passer personne. Là, ce point, il a réouvert, on peut passer. Enfin, les couloirs humanitaires, voilà, c'est vraiment très, très précieux. Ça permet d'être efficace pour aider ces personnes.
Alors, c'est merveilleux. On va pouvoir parler encore dans quelques instants, justement, avec Amélie Rouméas, coordinatrice du collectif ASA, une association qui coordonne une trentaine de partenaires d'associations qui agissent sur le terrain en faveur des réfugiés, notamment du côté de l'Ukraine, des pays limitrophes. On en a parlé avec vous, Amélie, à quelques instants, justement, de votre travail, finalement, de pouvoir vraiment coordonner tout ça, rassembler les gens, faire en sorte que tout le monde avance d'un même pas. J'aimerais juste vous rappeler, chers amis auditeurs, que vous pouvez réagir, envoyer tout votre soutien, votre amour et vos remarques, vos questions au 0652 300 342.
Amélie Rouméas, vous allez nous emmener avec vous dans le QG, un petit peu entre guillemets. Vous allez nous emmener et nous expliquer un petit peu comment ça se passe, cette coordination, ces réunions, les enjeux, les accords, les désaccords. Allez, emmenez-nous dans ce QG-là.
Ok. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a eu la nouvelle, le matin, comme tout le monde, le choc de l'invasion de l'Ukraine, très rapidement, Jean-Marc Sémoulin, c'est le président de l'association ASA, a mis en place un groupe crise et qu'ensuite, moi, je peux travailler au fil des jours avec. Et donc, vraiment, l'idée, c'était de rassembler tous les acteurs qui, auprès ou au loin, peuvent intervenir. Et donc, on a ce groupe crise sur lequel on échange régulièrement ou direct en temps réel. Il y a les infos. Dans telle ville, ça passe. Dans telle ville, ça passe plus. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un à ce niveau-là, un entrepôt, quelque chose? Et donc, c'est très dynamique. Enfin, voilà, ça permet d'être très, très rapide, en fait, dans la réponse. Donc, ça, c'est le groupe crise. On fait aussi des points Zoom moi, je prends des notes tout au long de ce point Zoom et puis je fais un communiqué qu'après, je peux transmettre aux médias. Alors, on travaille comme ça. Ça permet de rassembler. Eux, ils n'ont pas, même si chacun peut gérer ses médias, mais voilà, ça peut être un soutien supplémentaire. Et est-ce qu'on a comme outil qui est vraiment important? Là, je ne peux pas donner tous les détails, mais on a une carte, en fait. On a une carte sur laquelle on met, dès que j'ai une info, quelqu'un agit à tel endroit, il y a un couloir humanitaire ici, telle info. Je mets sur la carte et la carte est accessible par ce groupe crise et en direct, dès qu'il y a un besoin donc quelque chose qui se met en place. Ils regardent déjà les acteurs présents autour. Voilà.
C'est un groupe qui rassemble du coup toutes ces organisations, ces associations, c'est ça?
Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'on l'élargit petit à petit. C'est qu'au début, on a commencé avec les membres du collectif AZA. Puis là, on a OM qui nous a rejoints. Et petit à petit, voilà, on rajoute des acteurs chrétiens qui agissent. On n'est pas du tout limité à notre collectif. Enfin, le but, c'est de rassembler un maximum d'acteurs chrétiens qui agissent dans cette crise, quoi.
Et Amélie, à quel point les informations que vous partagez, elles sont confidentielles? Vous nous parliez d'une carte dont vous ne pouvez pas nous parler vraiment. j'imagine qu'il y a certaines infos qui ne peuvent pas être partagées n'importe comment au sujet de la crise humanitaire.
Oui, tout à fait, parce que... Oui, il ne faut pas être identifié, surtout des points en Ukraine qui ne veulent pas que ce soit trop identifié. Donc, cette carte, oui, n'est pas du tout partageable. On veut protéger les équipes qui partent sur le terrain, qui prennent déjà énormément de risques. Enfin, voilà, on veut pas par cette... Enfin, on ne voudrait pas,
les mettre
par
en
cette
danger.
Coordination, les mettre en grand danger, en fait. Mmh. Voilà.
Est-ce que entre les organisations, vous constatez, hein, vous qui êtes un peu à la tête de la coordination, des divergences ou des choses sur lesquelles vous avez des fois du mal à trouver des solutions par rapport aux problèmes que vous identifiez?
Oui, alors jusque-là, ça va, tout le monde était plus en mode adrénaline, vite, on échange, voilà. Et là, on a un outil qu'on utilise, c'est les récolter les offres d'hébergement en France. Et ça, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre en ce moment. Il y a différentes approches et voir quelle est la bonne, comment gérer cette offre et cette demande d'hébergement en France. Je dirais que ça, c'est un peu notre point du moment.
Ouais. Et bien justement, on va en parler dans quelques instants. Amélie Rouméas, coordinatrice du collectif AZA. Et on le disait, Matt, tu le disais, on parle de la France. Comment ça se passe en France? On en a un petit peu parlé avant. Comment ça s'organise en France? Comment participer à l'effort? Bref, on va décliner tout ça ensemble. Comment ça se passe en France, tout ça, Amélie?
Alors, comment ça se passe en France? Il y a 4 axes, mais peut-être avant ça, j'aimerais remercier Jean-Christophe. Merci pour le message. C'est très sympa et je peux transmettre au collectif, justement. Mais voilà, ça, c'est un axe, hein, c'est l'encouragement. C'est vraiment puissant pour les associations qui travaillent, c'est très fort. Et un axe qui rejoint l'encouragement, c'est la prière. On a une chaîne de prière qui s'est créée, qui a rapidement grossi, où on peut mettre des infos en temps réel au fur et à mesure qu'on reçoit. Bien sûr, des infos qui sont diffusables, mais on peut mettre des informations pour que les gens prient. Voilà, ça c'est un axe vraiment primordial qui fait qu'on peut agir. L'autre axe, c'est le don. Donc, chaque association dont je vous ai parlé reçoit des dons par rapport à cette crise en Ukraine. Donc, vous pouvez aller sur chacun de leurs sites pour voir ça. Ensuite, il y a l'hébergement dont on a commencé à parler. C'est possible d'ouvrir sa maison. Je tiens juste à préciser que pour ouvrir sa maison, c'est bien de s'entourer, de ne pas ouvrir sa maison seule. Et voilà, c'est ça, de vraiment s'entourer d'amis, d'en parler même à sa mairie, enfin voilà. Mais c'est un axe vraiment important qui va grossir dans les jours qui viennent. Et puis on a aussi, on essaye de recenser des points de collecte en France, vous retrouverez ça sur notre site. Des points de collecte où vous pouvez déposer tout ce qui est matériel pour les bébés d'hygiène, literie, vêtements chauds, chaussures chaudes. Voilà, donc on demande aux églises aussi de nous dire s'ils ont un point de collecte, on le rajoute sur la carte. Voici les axes.
Ouais. Wow, c'est génial, il y a plein de manières d'aider. On parlait du logement notamment. Ça s'organise comment concrètement? Alors bien sûr, on le rappelle, hein, vous pouvez aller sur farfm.com/Ukraine. Vous avez là tous les liens vers le collectif AZA et vers effectivement cette proposition de pouvoir héberger des gens. Alors ça se passe comment quand on décide de vouloir héberger quelqu'un?
Oui, alors l'outil, on le crée en temps réel, donc on a encore des choses à affiner. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un formulaire que l'on peut remplir en ligne, qui a déjà quelques questions pour affiner. Voilà, si on peut accueillir une famille entière, si voilà, combien de personnes, dans quelles conditions. Voilà, donc ça, c'est la première étape, c'est ce formulaire. Et ensuite, on est en train de regarder avec la Fédération Entraide Protestante de mutualiser, en fait, là aussi, parce qu'il y en a qui sont plus experts aussi dans ce domaine.
Oui.
Et de créer un livret d'accueil et toutes ces choses. Et je précise encore de bien s'entourer pour accueillir.
Mais oui, on parle d'un peu plus de 5000 réfugiés hein, en France actuellement. Un chiffre qui va continuer d'augmenter. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites, Amélie. Bien s'entourer, bien réfléchir et aussi se sentir concerné. Puisque, Amélie, pourquoi ça nous concerne? Pourquoi ça concerne tout un chacun, cette crise-là? Et vous avez parlé de ces axes pour participer. Merci. En quoi ça me concerne, en fait?
Mais ça me concerne parce qu'on l'a dit au début, accueillir l'étranger, aimer son prochain, ça fait partie de notre mandat, hein, je pense, en tant que chrétien, de notre mission. Et donc vraiment, ça nous concerne parce que bah, moi, je me dis, sans être alarmiste, un jour, ce sera peut-être moi. Mmh. Et je sais qu'on a tous besoin à un moment d'être accueillis et d'accueillir. Et ça marche dans les deux sens. Et vraiment, vraiment n'ayant pas peur de l'autre, mais vraiment soyons accueillants.
Waouh, c'est un super message, merci Amélie.
J'ai l'impression que c'est le mot de la fin.
C'est
ça,
le
Matt.
Mot de la fin, bon, je sais pas, en tout cas on va quand même vous laisser un mot de la fin pour vous. Si vous voulez encore eh bien, dire un petit mot à nos auditeurs, Amélie.
Oui, merci. J'avais une phrase en tête, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra Christ. Et donc vraiment je pense que là on a une opportunité d'exprimer notre amour pour notre prochain et puis aussi de ne pas avoir peur. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit retenir. C'est écrit dans la Bible, n'ayez pas peur, Dieu est au contrôle. Et donc voilà, je crois qu'il faut vraiment rester sur ces optiques-là tout au long de cette crise.
Un grand merci à Amélie Rouméas, coordinatrice du collectif AZA, association qui coordonne une trentaine de partenaires qui agissent sur le terrain. Vous voulez en savoir plus, allez sur farfm.com/Ukraine. On vous remercie du fond du cœur, Amélie. Ouais. Vraiment. Merci d'avoir été avec nous.
Un grand merci à vous.
Et on vous souhaite tout de bon pour la suite. On vous laisse, vous aussi, chers auditeurs, en musique.
Et Tom. C'est Philippe qui prend le relais. On vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et gardez courage.